طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Donc on a parlé la semaine dernière sur l'obligation de suivre une école. Gag, c'est ça hein? Hein? Si je me rappelle très bien. C'est ça
hein?
Non.
L'obligation de suivre.
D'accord, d'être encadré dans un madhhab. On va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les prodiges des saints, karamat al-awliya. Wa athbitan lil-awliya al-karama wa man nafaha fam bidhan kalama. Alors pour les prophètes, on appelle des miracles. On appelle ça des miracles. Des miracles. Et pour les saints, on appelle ça les prodiges, karamat. Alors, pour les miracles, on en a parlé, si vous vous rappelez. Hein? Les frères qui étaient dès le début avec nous, on a parlé des miracles, des prophètes. Vous vous rappelez? Bien, les frères et sœurs. Hein? On a parlé, on a détaillé la question des miracles, on a parlé du miracle de Sidna Moussa, on a parlé du miracle de Sidna Issa, on a parlé du miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plus de 1000 miracles. Il a plus de 1000 miracles. Et le plus grand miracle, c'est le Coran Karim. Le plus grand miracle, c'est le Coran Karim. D'accord. C'est une preuve tangible, d'un point de vue linguistique, et la rhétorique, et tout ce qui est là, hein, comment c'est... Le Coran Karim, ceux qui connaissent la langue arabe, c'est quelque chose de très 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 fort, commençant par les Quraishites, etc. Ensuite, c'est un texte, c'est, son contenu, il est valable à tous les temps et tous les espaces. C'est-à-dire, il va suivre tous les temps jusqu'à la fin des temps, et qu'à chaque temps, espace, à travers l'histoire de l'humanité, aujourd'hui nous sommes dans un monde de technologie, de découvertes scientifiques, etc. Alors vous avez les gens, ils découvrent des choses incroyables, mais quand on a des chercheurs qui vont vérifier, et qui se rendent compte que ces choses-là existent dans le Coran al-Karim. Ça c'est un miracle, que le Coran al-Karim il va s'adapter dans sa, on va dire, dans son défi, hein, à tous les temps, s'il y a un temps où la médecine sera, je sais pas moi. Donc, de toutes les façons, il y aura toujours un défi lancé du Coran vers le temps ou l'espace où il se situe. Donc, tout ça, on l'a vu. Aujourd'hui, on va parler des prodiges. Alors, l'awliya. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Les saints, c'est les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des gens qui al-waliyu, donc ce sont des gens qui sont dans la droiture. Ce sont des gens qui ont la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des gens qui sont, ils font ce que Allah Azza wa Jalla leur ordonne, ils s'abstiennent de ce que Allah Azza wa Jalla leur a ordonné de ne pas faire. D'accord. Donc ce sont des gens qui connaissent la charia. Un ignorant ne peut pas être waliullah. Mattakhadha Allahu waliyan jahilan wa law ittakhadahu la'allama. Allah Azza wa Jalla ne prend jamais un saint ignorant, et s'il le prend, il lui donne la science. Cheikh Belkibir nous a dit ça. Il ne peut pas. Tu ne peux pas, ignorant ça, non, c'est pas possible. Parce qu'un saint, les gens le prennent comme un modèle. Sahoula. Prennent comme un modèle. Comment tu veux prendre comme un modèle un ignorant? Il va t'induire d'une catastrophe à une autre. Et on a vu. Les gens qui s'autoproclament cheikh, ou ils s'autoproclament savant, ou ils s'autoproclament wali, ou ils s'autoproclament tout ce qu'ils veulent. Fa dhalla wa adhalla. Il s'égare et il égare. Comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith. Il y aura un temps où il n'y aura plus de gens de science. Donc les gens, comme il n'y a pas de gens de science, le terrain il est vide, ah bah tu as des gens, du jour au lendemain, il est cher. Bah, il commence à faire des fatwas, il commence à faire ceci, il connaît deux mots en arabe, khlas. Et il va faire des fatwas et les gens vont les suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ils vont s'égarer et s'égarant d'autres. Et malheureusement, on vit cette situation aujourd'hui. Quand vous avez des gens qui s'opposent à ce qui a été dit, ou la science qui a été, on va dire, notre héritage historique depuis des siècles, qui font à l'opposé de cela, ou bien vous avez des gens qui n'ont pas de science, qui n'ont pas de chaîne de transmission, et qui s'opposent à des sommités connues à travers notre histoire, ou bien contemporaines, tel que Cheikh Al-Ghazali, Al-Qaradawi, ou bien Imam Nawawi, Ibn Hajar, ce que vous voulez, c'est pas normal. C'est pas normal. Et que ça me fait rire, moi, des fois, je vois même des gens, ils ne connaissent pas l'arabe. Rien, walou. Il vient, il te subhanallah, wallahi, ajib. Ajib. Des fois, on discute, yani, comme dit l'imam Abu Hanifa, rahmallahu ta'ala, إذا خطبت عالما أفهمته وإذا خاطبني جاهل أفهمني. Si je discute avec un savant, je prends le dessus par mon argumentation. Et si je discute avec un ignorant, il prend le dessus avec son. Et si lui tu prends le dessus, qu'est-ce que tu vas débattre avec un ignorant? Il y a plein de gens qui viennent demander les dalils. Attends les dalils. La hawla wa la quwwata illa billah. Tiens le dalil. Et lui, il ne comprend pas ce que tu lui dis. Comment tu veux qu'il ne comprend pas le dalil? Il faut que tu lui fasses un cours sur le dalil, ensuite tu lui donnes. C'est le problème. Et tu lui dis dalil al-maslaha al-mursala. C'est quoi al-maslaha al-mursala? Ah, sahbi, tu crois que le dalil seulement, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça le dalil. Al-kitab, wa-sunna, wa-al-qiyas, wa-al-ijma', sadda dharai, amal ahmadina, sishab, sishna. On est dans un temps où les gens ne connaissent pas leur place. Ya subhanallah. C'est comme si on est en médecine et tu as quelqu'un qui n'est même pas en première année, il n'a pas encore commencé avec son cursus de médecine, il a pris le Vidal, je ne sais pas ce qu'il a pris de bricolage. Il va discuter avec un professeur qui a tous ses cheveux sont sortis dans les laboratoires. Et il va lui dire, mais j'ai vu de mes propres yeux. Wallah, j'ai vu une fois un qui travaille, avec tout le respect que je lui dois, il travaille dans une usine de peinture. Wallah, il discutait avec un professeur en chirurgie de cardiologie sur le fil qu'il faut. L'autre lui dit non, j'ai vu dans une revue. L'autre lui dit, mais c'est moi que je l'ai fait tous les jours, c'est moi, j'ai fait l'opération avec ce fil. Non, j'ai lu dans une revue. La hawla wa la quwwata illa billah. Ajib. Et ça, tu ne le trouves pas dans la conception, dans la mentalité occidentale. Ça se trouve chez nous. On a un grand problème il nous faut un Descartes pour un peu me remettre les choses en ordre. C'est-à-dire l'aql. La rationalité n'est plus dans il y a un problème, subhanallah. La même chose dans la charia. Il commence à apprendre. Dès qu'il commence, il va polémiquer. Il va. Yahri, subhanallah. Une sœur là, il a dit, on parle dans un sujet de tawassul. On ramène les arguments. Ramène les arguments. Wallahi, ce poste, je l'ai posté, ça fait en 2004. En arabe. Devant des chouyours wahhabites. Wallahi, ils ont fermé la bouche tellement c'est bétonné, argumenté. Dans un grand site d'Ikhwan, des grands chouyours de Syrie, d'Égypte, ils n'ont rien dit. Là, se revient, les arguments, ils sont minces. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a de quoi, des fois, j'arrive plus à. Je suis freiné. Je ne peux plus parler. Quand tu as. D'Ibn Hajar, d'Ibn Nawawi, d'Ibn Qurtubi, tout ce que tu veux, et que c'est mince, bah, j'aimerais bien voir, moi, l'argument qui est bétonné. Il est où? Il faut que je dise, Qala ibn Taymiyyah, sinon ça ne passe pas. Ah, c'est pas un prophète, hein, ça. On va le rendre au degré d'un prophète, mais non. Je suis désolé. Ibn Taymiyyah, c'est un savant qui a fait des dégâts. D'ailleurs, tout ce que nous subissons aujourd'hui, en majorité, c'est dû à lui, dans le monde musulman, que ce soit dans la conception, que ce soit dans le fait que ce soit dans le tawhid, que ce soit beaucoup de choses, mais il reste sa place, on n'a pas le droit de dire que c'est un égard, etc., etc. Mais il est un parmi des millions. Comment je peux laisser des millions qui sont reconnus et je suis un parce que un, on lui a fait de la publicité, etc. Il faut faire très attention. Pour revenir à notre sujet des awliya, donc Allah subhanahu wa ta'ala, déjà dans le Coran, vous savez que l'histoire de Marie, Maryam alayhi salam, déjà, Maryam alayhi salam, vous savez, elle a eu Sayyidina Isa alayhi salam, son père. Il n'a pas de père. Quand les gens commencent à parler, Sayyidina Adam aussi n'a pas de père. Déjà pour elle, pour Sayyidina Isa, c'est un miracle. Pour elle, c'est un prodige. Parce que c'est une sainte. D'accord. Donc, parce qu'elle a eu un enfant sans père. Donc, est-ce que c'est un miracle ou c'est un prodige? C'est un miracle et prodige. C'est un miracle pour Sidna Issa, qui est né sans père, déjà dès sa naissance, c'est un miracle. D'accord. Et pour elle, c'est un prodige. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, elle était élevée dans une famille de croyants, de plein de saints, etc. Alors, Zakaria, déjà, à la naissance, c'est Naïsa. Elle s'est éloignée, elle a dit, j'aurais souhaité être morte, parce que qui est-ce qui va me croire que je ramène un enfant sans père? C'est terrible quand même, comme une épreuve. Il y a elle qui est connue, يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Tu connais toi, tu es quelqu'un de bien, ta famille. Harun, c'est pas le prophète, c'est un autre. Donc, ils lui disent, tu fais. Mais qu'est-ce qu'elle peut apporter tous les arguments du monde, mais qu'est-ce qu'il va croire? Fantabarat min ahliha, elle a pris un coin, elle a dit, moi, je prends un coin. C'est Allah Azza wa Jalla qui s'en occupe. J'ai pas de réponse, qu'est-ce que je veux. Ensuite, la réponse, c'est. Elle est donnée par la preuve tangible. C'est ce bébé-là qui va parler. C'est Naïsa. Qala innani Abdullah. Le bébé, il est né, il va parler. Khlas. Les autres, khlas. Il n'y a plus de. On ne parle plus. Parce qu'on peut lui dire non, machal. Qala innani Abdullah. Atani al-kitab. Waja'alani mubarakan. Wa awsani bis-salati waz-zakati. Madumtu hayya. Wa barran biwalidati. Et je serai quelqu'un qui veut prendre en charge et douceur, etc. Je me charge de ma mère, etc. Voilà, mais j'ai un djabar en chakriya. Je ne serai pas quelqu'un qui va imposer aux gens. Rien. D'accord. Donc, déjà, à sa naissance, vous savez, une femme, quand elle donne naissance, elle a besoin de force, qu'on s'occupe d'elle, de lui donner à manger, etc. etc. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit. Maryam alayhi salam. Alors, comment Allah subhanahu wa ta'ala dit à Maryam, et c'est pas Maryam une prophète. C'est pas un prophète, d'accord? Elle est quoi? On l'a dit, c'est une sainte. Alors, la transmission, la révélation, pour vis-à-vis des prophètes, il y a la révélation. Vis-à-vis des saints, il y a l'ilham. Ja'ahum wahyul ilham. L'inspiration. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala transmet dans le cœur de son wali, on parlait tout à l'heure de sa istikhara, parce que c'était un cœur qui reste, il capte, d'accord. Il reçoit la révélation, il reçoit la parole, il reçoit l'ordre d'Allah Azza wa Jal, il reçoit la science, il reçoit l'information, c'est un cœur qui est prêt à recevoir, prédisposé, d'accord. Donc, comme la maman Sidna Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas envoyé une révélation, parce que elle n'est pas prophète. Parce que le prophète, il faut qu'il soit un homme. D'accord. Mais Allah Azza wa Jal lui a révélé, vous imaginez, au degré que ton bébé, tu vas mettre dans un panier et tu le jettes dans le fleuve. Il faut le faire quand même. Il faut le faire. Un bébé, tu le mets dans un panier et tu le jettes comme ça dans le fleuve. Mais elle a la certitude que c'est Allah Azza wa Jal qui lui a dit ça. C'est des gens qui ont atteint un degré très élevé dans la croyance, dans la sainteté, dans la droiture. Vous regardez, ce sont des grandes femmes quand même. Qui propre du femme, vous en islam, la femme. Venez, on va voir, on a décortiqué les statistiques de femmes qui ont le pouvoir dans le monde musulman et les femmes qui sont dans le monde occidental. Il y a plus de femmes qui sont dans les parlements, déjà les présidentes, on a Sheikha, machin, Bangladesh, machin, dans le monde occidental, hein, c'est très rare hein, de voir une présidente, on a celle d'Allemagne, on a Thatcher en Angleterre, ça y est, on n'a pas beaucoup de. Bon, en Islande, mais dans le monde musulman, c'est-à-dire, même actuellement, avec l'état catastrophique hein, des pays arabes, etc., il ne faut pas dire que la femme, quand même, l'islam opprime la femme ou quelque chose comme ça, c'est faux. Bien sûr, on a des machos, on a des. Ça, c'est l'esprit vous voyez, méditerranéen, hein, vous avez trouvé ça en Sicile, c'est pas une question de l'islam. Donc, des fois, c'est des traditions, d'accord? Faire distinguer de ce qui est l'islam de ce qui est tradition. Alors, Maryam alayhi salam, Allah lui ordonne, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala me dit, fais bouger le palmier, il y aura des dates, il y aura des choses qui vont tomber et tu profiteras, tu prendras des forces de ce que... Alors imagine, pour faire bouger un palmier, il faut... Ah, c'est pas facile, hein. Mais elle, Allah Azza wa Jalla, c'est un prodige. Il dit juste, touche le palmier comme ça. Les choses tombent. D'accord. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, fi surati Ali Imran, verset 37, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت ومن عند الله. À chaque fois que Zakaria عليه السلام rentre la voir parce que garder son bébé etc, il trouve à l'époque vous savez il y avait pas de frigidaire, il y avait pas de, on gardait pas les fruits de l'été pour pendant l'hiver, il trouve chez elle des fruits de l'été et pendant l'été il trouve les fruits de l'hiver. قال من أين لك هذا d'où tu ramènes ça. C'est-à-dire, c'est des prodiges. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me donne. Qu'est-ce que tu as dit? Tout ça, je suis en train de citer les prodiges qui sont cités par Al-Karim pour en arriver à autre chose. Les gens de la caverne, Ahlul Kahfi, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَزْدَادُوا 9. Donc, ils sont restés 309 années, 7 personnes. Sont restés 309 années, ils dormaient dans leur caverne. Ça, c'est un prodige. Tellement, quand ils se sont réveillés, ils ont cru qu'ils ont dormi une journée. Donc, ils ont envoyé quelqu'un, ils ont dit, écoute, on a faim, tu vas nous acheter un peu de... Tu descends au village, parce qu'il y a 300 années, vous imaginez comment ils trouvent le village. Il dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là? Et le premier épicerie qu'il trouve, il donne de l'argent, il dit, ouh là là là, ça, qu'est-ce que c'est que ça? D'où tu viens, toi? Il regarde l'argent, ça date de très longtemps, ça. Et là, il s'est rendu compte, il est revenu, il a dit, il y a un problème, là. On a un décalage. Donc, ces gens, Allah subhanahu wa ta'ala, les a fait endormir. Alors, imaginez... Une mosquée, le Coran al-Karim nous dit qu'une mosquée a été construite à la place de Ahlul Kahf. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Pour dire, il faut l'autre qui dise, ah, écoutez, la prière dans un endroit où il y a une tombe, c'est shirk, il faut lire le Coran, mon cher frère. Parce que dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc, لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. On a construit une mosquée à leur place, hein, dans l'endroit. C'est pas pour on va prier pour eux, on fait pour Allah. Mais لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Jamais. D'accord, et le sahabi, Bouassir, en Turquie, un sahabi où le professeur sallam a ordonné de construire déjà une mosquée dans l'endroit où il est mort. Hein. Et toutes les anciennes, comme dit Cheikh Ali Jumaa, toutes les anciennes mosquées du monde, vous trouvez des saints enterrés à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de problème. On prie vers Allah, on ne prie pas vers la tombe, bien évidemment. Parce qu'il y a des gens, ils ont la fièvre. Hein, dès que tu lui dis, Wali, oh, shirk, attends, j'ai pas terminé ça, mais Wali, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, je parlais avec des arabophones, comme ça, la même chose. J'ai dit, Wali, Allah, il dit, shirk, tu as un problème avec les Wali ou quoi? Ben, attends qu'on termine la phrase, ça. Wali, c'est quelqu'un qui adore Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas là pour adorer les saints. C'est pas ça, il faut comprendre.
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك, عفوا, النمل, Fourmi, verset 40. Salomon, Sidna Suleiman. Donc, il avait... Vous savez que c'était Sidna Suleiman, c'était un prophète et un roi. Le seul. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup de pouvoir. C'est un prophète déjà, awwalan. Et il entend, il comprend les animaux quand il parle. Ça, il y a une norme de troll masakina, c'est-à-dire, comme Suleiman ou Junouda. Une fourmi, elle parle, elle dit aux autres fourmis, cachez-vous parce que Suleiman, il va passer par son armée, ils vont vous écraser. Donc il a souri, il a dit à son armée, changeons. Et l'armée de Sidna Suleiman, c'est pas 200 ou 200 000 personnes. C'est des djinns, c'est des hommes, et c'est des... Il a
changer complètement l'orientation de l'armée pour ne pas détruire un petit machin de fourmis qui était là. Comment ils nous orientent vers la protection des animaux. Pour les donneurs de leçons, de l'écologie, je ne sais pas moi, d'animaux, machin, qui se calment. C'est-à-dire... Donc Sina Suleiman, il avait parmi ses proches, donc, il a des élèves, parce que quand c'est un prophète, il a des compagnons, etc., qui étaient donc des gens de science, hein, des vrais croyants, des grands croyants, bien sûr, c'est un prophète, hein. Et il a entendu parler d'une reine qui a quand même un pouvoir, elle a un royaume, etc., reine de Saba, hein, Malik et Saba, du côté du Yémen. Donc, l'information lui a été révélée par le Hudhud, une sorte de oiseau, comment on peut traduire, hein, la huppe. Donc il ne le voit pas, il est passé où? Soit il ramène une information importante, soit ça va être un problème pour lui. Donc il lui rapporte l'information qu'il y a des gens, j'ai trouvé une reine, elle a un grand royaume, etc., etc., qu'ils adorent le soleil. C'était des gens qui adoraient le soleil. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est interdit quand le soleil se couche, bien se lève, haram. Ils adorent le soleil. Donc c'est la Suleiman. Il lui écrit une lettre à cette reine. Il lui écrit une lettre. Alors, qu'est-ce que le Coran Karim nous cite un passage de cette lettre-là. وَأَنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانُ وَأَنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Ah, donc dans la lettre, normalement en général, quand on écrit une lettre, on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est vrai ou non? Ensuite, on met... Mais lui, il a commencé par Suleiman ou Anna Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors les savants, ils ont dit pourquoi Suleiman, il a commencé par son nom, ensuite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim vient après. Elle a entendu parler de Sidna Suleiman. C'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui a une grande armée, etc., etc. Donc, vous savez... C'est une reine, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Vous imaginez le nombre de gens qui lui envoient des lettres tous les jours. Le président de la République ne va pas avoir son email. Bon, il va avoir les emails, mais il ne va pas lire toutes les lettres. Il a des subordonnés, etc. Mais elle, Sina Suleiman, il lui a directement parlé de lui. C'est-à-dire, parce qu'elle, quand elle va ouvrir la lettre, si elle va trouver Bismillah, elle va déchirer, elle va dire bon. Mais quand elle voit Suleiman, elle dit ah, c'est important, celui-là, c'est celui qui a une grande armée, elle donnera l'importance à son texte, elle va lire tout le contenu du texte. C'est pour ça qu'elle n'a pas commencé, Bismillah. Première interprétation. Deuxième interprétation, on ne sait jamais, Sidna Suleiman, il s'est dit c'est une reine, elle a le pouvoir, elle a l'orgueil, etc. Dès qu'elle ouvre ma lettre et qu'elle voit Suleiman, c'est un prophète qui lui envoie une lettre, elle commence à le déchirer. Pour que ce qu'elle va déchirer tombe sur Suleiman et pas sur Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Non. Donc il y a des interprétations des savants qui ont dit ça. Non. Alors elle lit la lettre. Sidna Suleiman, il lui parle de Tawhid, c'est un prophète. D'accord. Il parle de la croyance d'Allah, il ne faut pas adorer le soleil, Allah le Tout-Puissant, etc., etc., etc. Mais en même temps, il l'a invitée, etc. Elle vient avec son armée. Elle vient pas pour faire la guerre. Mais elle vient quand même pour montrer qu'elle est quelqu'un de puissant. D'accord? Qu'elle est quelqu'un de puissant, qu'elle a une puissance, qu'elle a une responsabilité, qu'elle a un royaume, qu'elle a beaucoup de choses. Qu'elle est riche. Alors, Sidna Suleiman, non seulement quand elle va arriver... elle va être impressionnée du royaume de Sidna Suleiman et de son armée qui prépare, son armée là pour la recevoir, c'est pas pour lui faire la guerre, mais quand elle va arriver et voir l'armée de Sidna Suleiman, une armée de djinns et de ins, c'est impressionnant qu'elle va passer parmi eux, mais il veut lui faire quelque chose qui est beaucoup plus fort que cela. C'est que Elle est loin. Imaginez, lui, il est du côté de Damas, proche de la Palestine. Et elle est du côté du Yémen. Alors, vous imaginez à pied comment ça fait, des mois de marche. Alors, ses subordonnés leur dit, qui parmi vous peut ramener maintenant rapidement avant qu'elle arrive son arche, c'est-à-dire son siège où elle s'assoit, son trône à elle. Mais je le veux maintenant, hein, c'est pas... Alors un, il lui dit, ben je peux te le ramener avant que tu te lèves. Avant que tu te lèves, je peux te le ramener. D'accord. L'autre, il lui dit, avant que ton bras, tu le tends, etc. قال الذي عنده علم من الكتاب. Celui qui a la science du livre. قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. Avant que tu fermes l'œil et tu l'ouvres, je te ramènerai son trône. قال الذي عنده علم من الكتاب. Celui qui a la science, il s'appelle Asaf ibn Barkhia. قال الذي عنده علم من الكتاب. Celui qui a la science du livre. Alors les savants, ils ont dit, il y a discussion de quel livre s'agit-il, livre de Sidna Suleiman, etc. Donc l'essentiel, c'est un homme de science. D'accord. Et les soufis ajoutent une touche. Quelle science? Il faut que ça soit une science très puissante quand même. C'est une science très puissante. Il y a quelques soufis qui disent qu'il s'agit de la science des hurufs. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla lui a donné une science à cet homme, de telle sorte qu'il a la... d'aller en fraction de seconde, non seulement de faire toutes ces milliers de kilomètres, mais aussi de ramener le trône. Attention, non seulement il faut aller, mais le ramener. D'autres savants, ils ont dit, non, tellement il était proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui explique de faire dua, et le trône, il est là. L'essentiel, c'est un prodige, parce que ce n'est pas un prophète, pour ce proche de Sayyidina Sulaiman. Donc, un karim, donc tout ça, des arguments pour dire que les prodiges existent, le Coran al-Karim nous le récite. Donc, quand elle est arrivée, il lui a posé la question. Donc, elle a vu l'armée, elle était impressionnée, elle ne revenait pas. Sina Suleiman lui a montré le trône. Que penses-tu? Elle a dit, c'est impressionnant, c'est comme si c'est le mien, c'est identique. Elle lui a dit, non, c'est le tien, c'est lui-même. Non. Sayyiduna Omar ibn Khattab, parmi les Sahaba aussi, on avait dit un sahabi, il était emprisonné chez le Koufar. Ce sahabi-là, attaché, il avait toujours du feu, c'est-à-dire il est surveillé, hein, c'est un sahabi, il est attaché. On ne lui donne pas à manger, mais il a du fruit, il a, mashallah. Les Koufars, quand ils viennent, ils sont étonnés. Qui est-ce qu'il a donné ce manger-là? Il avait des fruits, il avait des choses, il les consommait. Sidna Omar ibn Khattab, il a envoyé une armée de musulmans dans une des batailles qui est loin de Médine, environ un mois de marche. Et en plein bataille, l'armée des musulmans, qui était guidée par un chef général musulman qui s'appelle Seria. En plein bataille, ils étaient, donc c'est une bataille un peu stratégique, qui est-ce qui va, attaquer l'autre, par derrière, hein, donc il se cachait derrière la montagne. Et Seria, c'est normal, il était sur le mimbar, il faisait du mois. Donc en plein khutbah de mimbar, il voit l'armée musulmane, elle fait une erreur tactique. Hein. Elle s'est dirigée vers une direction, va être attaquée par le dos. C'est normal, il lui crie de loin, dans le mimbar des sahaba, ceux qui assistent à la prière du vendredi, ils n'ont rien compris. Parce qu'il... Il dit, Ya Saria al-Jabal, oh Saria, attention à la montagne. Eux, ils n'ont rien compris. Ils sont là, Omar Bakhtab, dans une mosquée à Médine, ils parlent de Saria qui avec son armée, un mois de marche. Mais Saria, quand il est revenu avec l'armée, il a dit, j'ai entendu, c'est Omar Bakhtab. J'ai entendu son cri, j'ai compris qu'il voulait me dire, attention, ne vais pas de ce côté-là, retourne de l'autre côté de la montagne. C'est toi qui vas les attaquer par derrière, au lieu que c'est eux qui vont t'attaquer. Il a compris. Et les sahaba qui étaient là, avec Sidna Omar Khattab, ils ont dit, pourquoi en plein khutbah, tu as dit, Saria al-Jabal. Il a dit, j'ai vu, voilà, Saria avec son armée, elle est par là, donc je l'ai appelé, je l'ai vu. Il leur a dit, moi je l'ai vu, je l'ai appelé, donc il faut faire attention. Pour lui, Sidna Omar Khattab, c'est normal. D'accord, donc c'est où est le problème? Aujourd'hui, on voit qu'on peut voir, il y a la télé, il y a ceci, il y a cela. Alors, ça c'est un prodige. On a plein de prodiges qui se sont passés aussi à les Sahaba. Sidna Khalid ibn al-Walid, il buvait le poison. Hein. Il a ramené le poison, il buvait. Vous croyez à ça? Tout ça, c'est des prodiges. Hein. Alors, les mu'tazilites ne croient pas aux prodiges. C'est une secte rationnelle, c'est les musulmans ne croient pas. Les prodiges n'ont rien à voir. Alors, les sunnites, ils croient aux prodiges. Tous les autres groupes, sectes, etc. Nous, on croit aux prodiges. Celui qui ne croit pas, on rejette sa parole. Hein? Alors, un prodige, donc c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne comme encouragement, comme faveur, comme bienfait, assez bien aimé, aux croyants, aux saints, comme il peut le donner, pas forcément à un saint. D'accord. C'est le prodige. S'il est fait par une personne qui est dans la droiture, quelqu'un qui est dans le droit chemin, qui est connu par sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un prodige. Prodige. Comme il peut être stidraj, ou bien, c'est-à-dire, il peut être stidraj, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner cela. Faire passer ça, quelque chose de surnaturel, on va dire, à quelqu'un qui n'est pas dans le droit chemin. N'est pas dans le droit chemin. Pour qu'il continue dans son égarement. D'accord ? Il croit, miskin, qu'il est... Ah, tu vas continuer. Donc, il croit qu'il fait des choses surnaturelles. Mais c'est Dajjal, rappelez-vous. Hein? Qui fait l'antichrist, agresse-moi. Tu vas faire des choses, les gens croient que c'est des miracles. C'est pas des miracles. Hein? Moussa Ilima al-Kadhab, c'était à l'opposé. Moussa Ilima al-Kadhab, Moussa Ilima, là on est en train de parler du cas où la personne, elle fait des choses dans le... C'est-à-dire elle fait des choses positives, c'est-à-dire des choses surnaturelles. Moussa Ilima, c'est un menteur qui s'autoproclame prophète. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Abou Siddiq, surtout. Qu'il a dit, bon, il a dit, mais moi j'ai un Coran, mais bon, il a commencé à réciter, à dire des choses, n'importe quoi. Ils lui ont dit, voilà le prophète de l'islam, mais il guérit les gens, hein, comme tous les prophètes, il guérit, on va te ramener. Il y avait quelqu'un qui avait un problème dans son œil, pratiquement, qui est devenu aveugle. Ils lui ont dit, voilà, est-ce que tu peux lui guérir cet œil? Il a dit, pas de problème, ramenez-le, je crois que ce qu'il lui a récité sur son œil. Donc, il lui a rendu malade, mais aveugle, l'autre œil qui était bien. Donc ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le punit, d'accord? C'était dans la Jani, sur place. Il est venu dans un puits, il y avait un petit peu d'eau, d'accord? Pour lui ont dit, tu fais un peu, tu récites, tu nous dis quelque chose pour que l'eau sorte de ce puits-là. Elle est devenue sec, d'accord? Ça s'appelle c'était dans la Jani. Mais vous avez aussi, que ça peut se faire que Allah azza wa jalla donne à cette personne-là pour le laisser dans Ihana, exactement. Ihana, quand c'est dans le sens négatif. Non. Quand c'est pour Moussa Ilima, c'est Ihana. Non. On a aussi sihr, la sorcellerie. Sihr. Alors, la sorcellerie. Donc, ça existe. Ça existe. Il faut bien détailler qu'est-ce que c'est que la sorcière. Alors, vous avez des gens qui ne sont ni des sorciers, ni rien, ni tout, c'est des charlatans, ni n'importe quoi, c'est pour gagner de l'argent, ça, on ne parle pas. D'accord. Il fait des trucs, machin, il fait rien, en fait. C'est un menteur, charlatan. Mais vous avez aussi des gens qui font du sihr. Ils ont cette science-là. Du mal. Ils ont cette science du mal. Ils font avec cette science-là le mal aux gens. D'accord. Ils vont la faire avec des trucs, des... C'est une science. Alors, est-il autorisé d'apprendre la sorcellerie ou c'est interdit? Les savants, ils ont dit, celui qui l'apprend pour se préserver ou pour se défendre, oui, c'est autorisé. Mais l'apprendre pour l'appliquer, vous avez raison, c'est du mal, c'est un mal. Non. Alors, comment la sorcellerie a été son origine? On rapporte que, vous avez Harut ou Amarut, il y a une divergence entre les commentateurs du Coran. Est-ce que Harut et Marut, ce sont des anges ou pas des anges? Il y a divergence entre les savants sur cette question-là. Il y a des commentateurs du Coran qui disent que ce sont deux anges qui ont un peu critiqué le comportement des humains sur Terre. Ils ont dit, quand même, ces humains, ils sont loin du chemin d'Allah, comment ça, etc. Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait savoir que si vous êtes, parce que l'ange, il n'a pas, comment on dit en français, teklif,
responsabilité.
Et voilà, il n'est pas responsable. Allah Azza wa Jal, les anges, il les a créés de lumière, de nous, ils sont faits de lumière. Donc, ils ont l'ordre, ils font ce que Allah Azza wa Jal leur donne de faire. Et même s'ils veulent c'est-à-dire s'opposer, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour être responsable. D'accord? Alors, ces deux anges-là, Allah Azza wa Jal leur a dit, je vais vous donner les qualités des hommes. Et je vais vous donner une science, et vous allez sur Terre pour voir comment vous allez vous comporter. Donc il y a un grand débat entre les commentateurs. Il y en a ceux qui ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette science, qui est la sorcellerie, afin de l'apprendre aux gens, et qu'elle soit peut-être quelque chose de bien ou de mal vis-à-vis des personnes. Alors ils vont l'apprendre aux gens, tout en disant aux gens, attention, on vous apprend ça, mais ça, c'est une épreuve pour vous. Si vous l'appliquez, vous êtes vraiment, vous commettez un péché grave. Si, même en ayant cette science-là, vous ne l'appliquez pas, vous vous préservez afin de vous défendre, là, vous êtes dans le droit chemin. Là, il y en a ceux qui ont interprété, des commentateurs qui ont interprété comme ça. Donc, l'origine de la sorcellerie, on rapporte, c'était ça. D'accord? À l'époque, c'est Namoussa, bien sûr. Les sorciers, là, qui étaient avec c'est avec Pharaon. Donc, quand ils ont jeté les bâtons qu'ils avaient entre les mains, etc., le Coran nous apprend qu'ils ont ensorcelé les yeux des gens. C'est-à-dire tellement, ils avaient la possibilité de faire pression, une sorte de pression psychologique, etc., sur les gens qui étaient là, de telle sorte que les gens voit des choses fausses. Des illusions. Il y a quelques commentateurs qui ont dit que ces bâtons-là, c'était fait de peau de serpent, qui, à l'intérieur, il y avait mercure, mercure, et qu'ils étaient dans un endroit où, en dessous, ça chauffe. Donc, c'est des bâtons, à un moment donné, le mercure bouge. Il y a des commentateurs qui ont dit ça. D'autres ont dit non, ils ont joué sur les yeux des gens. C'était de l'illusionnisme, c'est pas de. D'accord. Il y a une discussion. Mais, il faut retenir que la sorcellerie existe en tant que. C'est-à-dire, science du mal. D'accord. On peut faire du mal avec ça. Et qu'en se préservant de cela, soit en connaissant cette science-là, on la combattant avec, bien sûr, le Coran Karim. D'accord. Il y a des sciences qui ne sont pas données à tout le monde. Hein. Les sciences des lettres. Hein. C'est le huruf qui, Allah subhanahu wa ta'ala, a créé des sciences spécifiques. Il a donné à quelques bien-aimés, des saints, des grands savants. Dans la science du huruf, on peut trouver Ibn Arabi, Qadassallahu Sirra. On en a parlé, c'est d'après Qadr al-Jilani. On peut trouver des grands savants qui ont parlé sur cette science-là. Aussi avec la ruqya. Vraiment, les gens qui font la ruqya, maintenant ça devient un métier. Hein. La carte visite, etc. Professeur, machin. Il faut faire attention, subhanallah. C'est pas grave de faire la ruqya. C'est pas grave. Au contraire, c'est recommandé. Mais il faut faire attention de savoir que la ruqya. C'est pas quelque chose, tout dépend de la personne. C'est-à-dire, il suffit que la personne soit sincère, soit dans la droiture, il te lit un verset, etc., et c'est bon. Donc, si tu as quelqu'un qui n'est pas dans le droit chemin, il peut te lire, c'est un hizb, c'est pas le problème, c'est pas seulement de lire ou de bien faire. Ensuite, il y a des gens qui sont tellement paranoïa, n'importe quelle maladie, oh, il a un djinn. Je suis désolé, hein, je sais pas, il a un djinn ou bien oh, on lui a fait quelque chose. Bah, il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques, il y a des gens qui ont des problèmes sociologiques, mais ce n'est pas forcément qu'il a un djinn, pas forcément qu'il a de la sorcellerie. Une sœur, une fois, vient, on m'a ensorcelé. Bah, je dis, écoutez, comment vous avez su qu'on vous a ensorcelé? Qu'est-ce qui vous fait que... faut pas directement mettre sur le dos de... D'accord, il faut aller voir les médecins, il faut avoir... Pourquoi mettre... Mais musulmans, de voir un psychologue, où est le problème? Ou bien un psychiatre, déjà qu'il y a des problèmes, enfin, tu vois, un psychiatre, où est le problème? Mais bon, bien sûr, de préférence par un psychologue musulman, c'est-à-dire ne pas tomber aussi dans le délire de la psychanalyste délirante, etc. Sauf, bon, il y a des vrais médecins, bien sûr, je ne dis pas qu'il y a des mauvais, toujours des mauvais psychologues, mais on a vu des psychologues qui sont quand même... qui délirent, vraiment qui délirent. Ils disent n'importe quoi. Oui. Donc la ruqya, ça existe, mais il faut que ce soit des gens pieux, etc. etc. Et donc, le prodige... peut être fait par des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et que dans leur cheminement, dans leurs épreuves, puisque ce sont des bien-aimés d'Allah Azzawaj, ils ont beaucoup d'épreuves, Allah Azzawaj, pour les encourager, il va leur donner. Donc, et ce prodige-là, il vient dans des situations un peu difficiles. Il revient dans des situations difficiles, comme il peut venir dans une situation, on va dire, normale, où il n'y a pas de... Mais en général, ça vient, dans une situation où Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire, les encourage, c'est-à-dire, leur donne de la force, tu vois. Parce que quelqu'un qui a beaucoup fait, patient, qui a enduré dans son cheminement, etc., Allah subhanahu wa ta'ala, dans un... Une fois, il y avait un cheikh, on va raconter quelques prodiges, c'est des Abdurrahman, Sidi Mohamed bin Abdurrahman al-Azhari. Ça, il a étudié pendant 30 ans. Sidi Mohamed bin Abdurrahman al-Azhari, il a étudié de la tariqa khalwatiya rahmaniya. Il a étudié al-Azhar pendant 30 ans. Il est de Kabylie, hein, quelqu'un qui est parti d'Algérie. Il est resté 30 ans sans venir. Hein. Avant, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas. Au 18e siècle. En partant, donc, après 30 ans, son frère, il va le chercher d'Égypte. Mais. Va chercher l'Égypte. Voilà. Il sait qu'il est en Égypte, ça fait 30 ans qu'il est parti. Il va le chercher pour revenir en Algérie.
Il
ne sait pas où. Par contre, avant de partir, un cheikh lui a dit, chauffe. Il lui a dit, je vais faire, il chauffe. Tu vas le chercher. Tu rentres en Égypte. Tu vas à l'Azhar. La nuit, quand tu vois une ménarée, une terrasse, dans l'Azhar, terrasse où tu vois une lumière, va, tu trouves, c'est ton frère. Il dit, il ne dort pas, il va, tu vois, en train d'apprendre, etc. Il a fait la même, ce qu'il lui a dit son cheikh, ce cheikh-là. Il est allé, il est tombé sur lui. Parce qu'il le connaît, il a perdu, 30 ans, il ne l'a pas vu. Il lui a dit, subhanallah, la Ouma t'attend en Algérie. Ça fait 30 ans que tu es là, sahbi, tu viens, tu as appris quelque chose, tu viens nous apprendre. Et il est revenu avec lui. Donc il était à l'origine de la tariqa khalwatiya. Mais quand il est revenu en Algérie, il lui s'appelle Mohamed ibn Abdurrahman. Donc, quand la tariqa khalwatiya a pris son nom en Algérie, Mohamed ben Abdurrahman, ça c'est, donc la tariqa est devenue Rahmaniya en Algérie, l'origine. Donc, une fois qu'on est rentré en Algérie, c'est pas comme aujourd'hui. Vous imaginez quelqu'un qui vient de l'extérieur, il rentre dans un pays, même si monsieur tu as étudié 30 ans à l'Azhar, c'est pas un marché. Tu rentres dans un pays où il a ses coutumes, il a ses savants, il a sa croyance, il a son fait. On doit te tester, monsieur. Eh bien oui, pour que tu ne dises pas de bêtises, c'est pas comme aujourd'hui, c'est un marché. En Algérie, ou bien au Maroc, en Tunisie, tu dis, ou bien ici. Tu peux ce que tu dis ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-bas, avant. Donc, il avait une réunion dans une grande mosquée qui s'appelle Jamak Tchawa. C'est au cœur d'Alger. On lui a rassemblé 14 ou 15 savants. Chaque savant, il est spécialiste dans une spécialité. Un spécialiste dans le qira'at, un spécialiste dans le tafsir, un spécialiste dans le hadith, un spécialiste dans le fiqh. Et chacun lui a préparé une question. Tous, ils vont le tester. Pour l'autoriser, s'il peut enseigner ou non. Ce n'est pas parce que tu as étudié 30 ans que tu vas automatiquement bien. On va te tester, monsieur. Si tu es apte Et si tu vas nous faire des fatwas qui vont faire des problèmes ici dans le pays, on, en a pas, on est tranquille, on n'a pas besoin que tu avec tes fatwas, tu restes là-bas. Pour dire que c'est très important, c'est-à-dire que le savant ou le cheikh, quand il va dans un endroit, qu'il ne fasse pas, c'est-à-dire la science, c'est une science qui doit ramener la fraternité, le savoir, l'amour, les objectifs de l'islam, c'est ça. Si c'est une science qui va faire la terreur, c'est pas la peine. Autant laisser les gens comme ils sont. Alors, lui, comme c'est un grand saint, un grand savant, ils se sont rassemblés dans le Jama'at Tchawa. Il leur a dit, vous avez préparé tous des questions, 14 ou 15 savants, chacun dans sa spécialité. Avant que vous posiez des questions, chacun, je vais répondre à sa question. Donc, avant qu'il pose des questions. Toi, le Qara'at, voilà la réponse pour ta question. Toi, ils ont reconnu que c'est un alim, arif. Donc c'est un savant et saint en même temps. Là, ils ont tous venu l'embrasser, etc. Ils ont dit, la ilaha illallah. Donc il a ouvert deux zawiyas, une en Kabylie, puisque là où il était, Djordjara, et une autre à Alger. D'accord, de la Tariqa Rahmaniya. Et à l'époque, donc il y avait des grands commerçants qui travaillaient à Alger au niveau du port. Donc il y avait un grand riche espagnol. Il avait beaucoup de disciples. Il était à Alger, Cheikh Mohamed Ibn Abdelrahman. Il avait beaucoup de disciples de la Tariqa Rahmaniya. C'est à l'époque de l'Empire Ottoman. Donc, ses disciples lui disent, voilà, on a un patron au port. C'est une catastrophe, ce patron-là. Il ne nous paye pas, il retarde trop. Il souffre avec ce monsieur-là. Il leur donne pas ce qu'il doit leur payer comme salaire, etc. Sidi Mohamed, il leur a dit, vous allez faire la grève. Il leur a dit, vous ne travaillez pas. J'imagine à l'époque. Et ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et il leur a dit, il y a un grand olivier, hein, c'est un arbre comme ça d'olive dans le port. Vous allez tous vous rassembler. Il y avait 40, 50 disciples. Vous ne travaillez pas. Eux, c'était, ils descendaient les grands sacs du bateau, ils remontaient. Docker, on appelle ça. Donc, ils sont assis. Ils sont assis, on ne travaille pas. Classe. Ah, tout est bloqué là. Le patron, il vient, qu'est-ce qu'il y a? On ne travaille pas. Comment ça, vous ne travaillez pas? Qui est-ce qui vous a dit ça? C'est Mohamed Ibn Abdelrahman. Notre cheikh, il nous a dit de faire ça. Ah bon? Ah ben, dites à votre cheikh de vous donner à manger alors. C'est-à-dire que vous avez maintenant vous avez un homme qui a le pouvoir matériel et un cheikh qui a donné l'ordre, qui doit assumer cet ordre. Le cheikh, il vient. Il arrive, il le voit, il lui dit toi, tu leur donnes l'ordre de ne pas travailler, maintenant c'est toi qui vas leur donner à manger. Ah, ils vont rester comme ça crevés. C'était un arbre d'olive. Cheikh, il prend une tige. Il fait bouger la tige, les pièces d'or tombent. Bon, vous pouvez croire. C'est pas si vous croyez pas, c'est pas de la croyance, hein, mais je vous dis, c'est des histoires que j'ai appris de mon cheikh. C'est-à-dire, mon cheikh, c'est-à-dire, c'est le quatrième disciple de ce cheikh-là. Donc, c'est rapporté d'un cheikh à un cheikh. Vous êtes libre de croire ou de pas croire. Des pièces d'or tombent. Ce n'est pas la première fois qu'il a fait ça. Je vais raconter une autre histoire. Alors, sur place, le patron espagnol a payé tout le monde, il lui a dit, il faut que je te fasse un cadeau. Il a respecté, il a dit, je te fasse un cadeau, etc. Le cheikh lui a dit, non, je te fais un cadeau. Bon, il a dit, puisque tu insistes, il a dit, j'ai une grande zaouia à Alger, les Algérois qui connaissent. Quand vous allez à Alger, actuellement, où il a enterré le cheikh Sidi Mohamed, dans sa zaouia, il y a un grand mur que les Algérois, la plupart, ils ne connaissent pas, puisque ça ne les intéresse pas. Malheureusement, c'est pour eux, c'est il y a du cheikh qui est bidard partout, donc... un grand mur qui entoure Alger, qui entoure la Zaouia. Maintenant, c'est un cimetière. Hein, la Zaouia, c'est un cimetière. Parce que, après la mort de Cheikh Sidi Mohamed Ibn Abdelrahman, il était enterré, ensuite ses disciples, ensuite sa famille, ensuite tout le terrain. Les gens, ils ont commencé à enterrer, ça devenait un cimetière. Mais la mosquée, elle y restait. Au milieu, il y a un cimetière, mais au milieu, il y a une mosquée. Où on prie toujours. Hein, il est enterré à côté. Et tout, voilà. mosquée. Mais tout autour, vous allez voir un mur. Grand mur. C'est lui, c'est l'espagnol qui Cheikh lui a dit, bon, si tu veux me faire un cadeau, bon, je voudrais entourer le Mazaouia avec un mur. Et il l'a construit. Une autre histoire, c'était avec on appelle ça, c'était un khouja, c'est-à-dire c'est un derrière. Mais chez nous, c'est khouja, chez nous, c'est pas un cheikh. On dit khouja, hein?
C'est
celui qui a le pouvoir politique à Alger. C'est, on va dire, un gouverneur. Hein. Il est, vous imaginez, un grand alim, l'équivalent par exemple, Qardaoui par exemple, aujourd'hui, hein. Vous allez voir un responsable politique qui va lui dire « Est-ce que tu ne peux pas venir à la maison, j'ai des petits enfants de 4-5 ans pour la parole, la langue arabe ?» Tu vois, Yanné. Donc, le gouverneur d'Alger, qui était turc, il vient voir Sidi Mohamed Mabrahim, qui était un grand wali qui enseigne les savants, il va lui dire « Est-ce que j'ai des petits enfants, tu vas leur apprendre la langue arabe ?» Il lui a dit oui. Vous imaginez, subhanallah. Il n'y a pas de « Moi, comment ça ? Moi, je vais venir. » Cheikh Al-Alaoui, il dit, moi je donnerai un cours, même si c'est une vieille aveugle qui assiste à mon cours. Seule, je viens de lui donner le cours. Une femme vieille aveugle. Il ne faut jamais sous-estimer, c'est-à-dire celui qui apprend. Jamais. Jamais. C'est ça le sel de la science. C'est ça. Parce que si tu attends que 10 000 viennent, 3 000, Allah, qui fait. On a des chouyours, il a un seul disciple. Moi, je connais des disciples de Cheikh Al-Alaoui, des grands, wallahi, des grands. Il a un seul disciple. Subhanallah. Alors, il veut avoir ce Cheikh-là. Le gouverneur, quand il a vu Cheikh Sidi Mohamed bin Abd al-Rahman venir, lui enseigner deux petits-enfants. Il dort comme ça. Il passe tous parce qu'il y a la matinée, téléphone, machin. Et ensuite, il part. Il dit, ah, celui-là, s'il est venu, c'est qu'il attend de l'argent. Il veut de l'argent, celui-là. Mais c'est pas normal. Il a créé Cheikh Sidi Mohamed bin Abd al-Rahman. Il voulait de l'argent, puisqu'il va. Il laisse sa Zawiya de Kabylie, il laisse sa Zawiya d'Alger, où il y a des disciples, le fer, etc., plein d'élèves, des savants, lui a demandé pour venir lui apprendre des enfants. Cheikh, subhanallah, il est venu. À un moment donné, c'est à Alger, hein, les gens d'Alger connaissent cette histoire. Bon, pas tous. Dans son petit château, actuellement, qu'on a préservé, je ne sais pas s'il existe toujours d'ailleurs, au cœur d'Alger. Il le croise, il lui prépare de l'argent. D'accord, on dit ça comme ça. Il a terminé son cours et le chef est parti. Il dit, Cheikh, attends. Il lui dit, tiens, ça c'est le... Le Cheikh avait toujours son bâton. Il a regardé, il a frappé deux fois dans le plafond, toujours des pièces d'or qui tombent. Il a dit, je ne suis pas venu pour ça. Anarani, il a dit, moi je suis riche par ce que Allah Azzawajal m'a donné. On est riche. Il a dit, l'autre il a compris que ça rigole pas avec ces gens-là. C'est pas des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les montagnes lui ont demandé s'il veut qu'elle se transforme en or. Lui, il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement avec les sahaba, dans des razawats, ils n'avaient pas de quoi manger. Il se serrait, il mettait deux pierres pour se serrer dans Ghazwat al-Khandaq, dans la bataille du fossé. D'accord ? Mais il n'y avait rien à manger. Rien. Et les montagnes lui demandent si tu veux qu'on se transforme en or. Il dit non, vous restez comme vous êtes, pas de problème. Allez. Ces gens, ils ont Allah subhanahu wa ta'ala. C'est plus que les montagnes d'or, c'est plus que l'argent, c'est plus. Donc des prodiges. Il y a un autre prodige qui est mort, qui est intéressant aussi. Je parle de Sidi Abd al-Rahman. L'Azhari, rahimallah ta'ala, comme anecdote, pour raconter, lui, c'est Sayyidi Mohamed, il s'appelle Sayyidi Mohamed Ben Abd al-Rahman. Pour vous faire rire un petit peu, quand le fils, le parti froid islamique de salut, où il y avait plein de wahhabites à l'intérieur, bon, c'était une khalot à tchouk, vous avez des chiites, vous avez des salafis, vous avez ceux qui ne prient pas, plein, mais il y avait beaucoup de wahhabites. À Alger, dans la daïra, dans le quartier là où on habite, Alger, donc le nom de cette ville s'appelle Sidi, c'est-à-dire elle porte le nom de ce wali. Donc ça s'appelle Sidi Mohamed Ben Abd al-Rahman. Donc comme tu dis, par exemple, je ne sais pas moi, Paris 12e ou quelque chose comme ça. Donc tous les imprimés administratifs, c'est le quartier, ça s'appelle comme ça. Alors eux, tant qu'ils sont wahhabites, ils ont enlevé Sidi Mohamed, ils ont laissé Mohamed Ben Abd al-Rahman. Vous imaginez? Alors, le mot Sidi, il est jeune, il est adib, subhanallah. Donc, oui, après sa mort, il y a un problème. Après sa mort, parce qu'il avait deux Zawiyas. Il avait deux Zawiyas, une en Kabylie, une en Alger. Alors, après sa mort, il a été enterré en Kabylie. Ceux d'Alger, ils ont dit, non, il n'est pas question, comment ça il doit être enterré à Alger. Ils ont allé la nuit, le déterré, l'enlever de la tombe, et hop, l'enterré à Alger. Ils ont dit, il faut qu'ils soient enterrés là. Ils ont fait un mausolée, etc. Ceux de Kabylie, 2, 3, 4 jours, hop, ils sont venus. Ils l'ont déterré, hop. Donc ça, ils ont fait ça 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois. À un moment donné, ils ouvrent là-bas, ils le trouvent, ils ouvrent là, ils le trouvent. Il s'appelle Boukabraï, celui qui a 2 temples. Il a 2 temples. C'est-à-dire, c'est prodige même après sa mort. Ils ont ouvert là-bas, ils l'ont trouvé, ils ont ouvert là-bas, ils l'ont trouvé. Sidi Mohamed ibn Abd al-Rahman, c'est un grand, grand, grand wali. Et on a, c'est-à-dire les prodiges des Aouliyas, ils sont interminables. Hein. Karamat al-Aouliyas, c'est plein de karamat. Subhanallah, mais ces prodiges-là, il y a plein de savants qui ont des prodiges. Le plus grand prodige, comme je disais, ces prodiges-là, ce ne sont que des signes d'encouragement, ou bien pour montrer que ces gens-là, Allah Azza wa Jalla est avec eux, etc., etc. Mais le plus grand prodige, akbaru karama, est l'istiqama. Le plus grand prodige, c'est la droiture. Et même le Junaïd dit إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا فَوْقَ مَاءِ الْبَحْرِ يَسِيرُ أَوْ فِي الْهَوَاءِ يَطِيرُ فَلَا تَعْتَدَّ بِقَوْلِهِ إِلَّا بِشَهِدِ عَدْلٍ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ. Si tu vois, même Junaïd, il est un grand, grand, waliullah, grand saint, c'est l'un des grands piliers hein, du soufisme. Il dit, si tu vois une personne en train de voler, ou bien en train de marcher sur l'eau, il ne faut pas que tu sois ébloui jusqu'à ce que tu vois la position de cette personne-là vis-à-vis du livre et de la sunna. Est-ce qu'il l'applique, il suit la charia? D'accord. Il a dit, comment on dit, la tartare, c'est-à-dire ne te... Comment? Voilà, ne t'impressionne pas, dis pas, ne t'impressionne pas. Jusqu'à ce que tu vois comment il se comporte vis-à-vis de la charia. D'accord. Même s'il marche sur l'eau. Et après, vas-y, marche sur l'eau. Mais une fois, on avait un cheikh, il nous dit, vous savez, hein, dans le cirque, il y a des choses qui sont incroyables aussi qui se passent. Hein. Vous avez des gens qui font marcher les lions sur le machin. Donc, c'est pas le plus important, comme ça se passe avec Cheikh Al-Alawi, avec son cheikh. C'est du Bouzaïdi. Il était dans une tariqa, qui s'appelle tariqa Al-Issaouiya, qui était, cette tariqa, c'était chaque tariqa là, c'est-à-dire sa spécialité. Là. Eux, dans la tariqa Issaouiya, c'est une tariqa qui est connue par les prodiges. Hein. Voilà, il mangeait, et puis tu peux lui ramener des scorpions, il peut jouer avec les scorpions, les serpents, etc. Ou bien manger les. Moi, je les ai vus, hein. Vraiment, je les ai vus. Il mange du verre, hein. Il enlève l'ampoule, il met dans un mouchoir, il la casse, il mange. Hein. Il normal. Comme s'il mange du chewing-gum, il mange... Je les ai vus, il ne m'a pas raconté. Hein. J'ai vu. Ils ont beaucoup de prodiges. Mais les prodiges, là, dans la tariqa, comme dit Cheikh Saïd Hawa, il ne veut pas le prendre. Ce sont des prodiges de ses disciples, mais ce sont des prodiges de la véracité de la tariqa, de leur cheikh. Même si c'est eux qui font ça, parce qu'ils marchent hein, comme ça sur les braises. Ils marchent sur les braises normales, rien. Ils lui font rentrer des couteaux, machin. Donc, c'était brodige de leur cheikh, que la tariqa allait vraiment dans le droit chemin. Pas du prodige pour eux. Alors, Cheikh Al-Alawi, qui était dans la tariqa Issaouiya, donc il a ramené un grand, 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 il a ramené un grand, grand serpent. Il a ramené un grand, grand serpent, enfin, pour montrer à son cheikh, regarde, spirituellement, je suis bien, regarde, mashallah. Et il ne me pique pas ce serpent-là. Il le tourne comme ça, mais vraiment, un serpent. Cheikh, il regarde. Il dit ça. Ça sert à rien, ça. Oh, Cheikh, il a dit, c'est le plus grand que j'ai trouvé. Il dit, je vais te montrer quelqu'un qui est beaucoup plus grand que cela. S'il ne te pique pas, là, je reconnais que tu es machin. Il dit, il est où? Il dit, ton ego. نفسك التي بين جنبيك. Si ton ego il est pire que ce grand serpent là. Si ton ego ne te pique pas, mashallah, le serpent tu peux lui faire de. Mais est-ce que tu maîtrises ton ego comme tu maîtrises ce serpent là? Ça c'est l'éducation spirituelle des soufis. Parce que le plus grand voile, ils nous apprennent que le plus grand voile qu'il y a entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas l'autre, il ne faut pas toujours dire ah oh, c'est lui, non c'est toi ça. Mais c'est-à-dire il faut commencer déjà par nous. C'est-à-dire chacun, si chacun commence à faire un travail, c'est-à-dire en lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera beaucoup de choses. Parce que quand tu fais le travail sur toi, mais subhanallah, il y avait un waliullah, quand il se réveille le matin, qui voit le problème, il marche comme ça dans le souk, comme ça à Baghdad, la hawla wa la quwwata illa billah. Il ne dit pas aux gens, regarde, purée, qu'est-ce que tu as avec toi? Il dit, Allah, je sais que tu, c'est de ma faute. Parce que pour lui, tellement, pour lui, il fait des péchés. C'est un waliullah, il passe son temps à faire à adorer Allah. Il dit, wallah, il croit ça. Hein. Il dit que tellement les gens, ils sont dans le, ils ont des problèmes, c'est Allah, il est puni à cause de moi, à cause de mes péchés. Il lui, parce qu'il passe son temps à adorer Allah. Jamais il dit, c'est l'autre. Ma foi, donc les prodiges, ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des encouragements qu'Allah a donné à ses bien-aimés, à ses saints, et qui sont nombreux, et que plus on s'éloigne de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus il y aura beaucoup de prodiges. Parce que la Ummah, elle s'affaiblit, point de vue foi, croyance, etc. Alors Allah azza wa jal envoie beaucoup plus de signes pour que les gens se maintiennent, pour que les gens restent dans notre chemin. Je vais me limiter à cela, inshallah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Assalamu alaykum. Cheikh.